Chers amis de Radio Galère, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir tous les mardis, de 18h à 19h, dans l'agora de l'Université Populaire de Marseille Métropole, sur la bande FM 88.4, sur le canal 8C de la radio numérique terrestre et en diffusion Internet. L'agora vous propose des régalades, des pépites, des projets, des initiatives de la recherche, de la créativité, de la cité.
Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Je vais avoir le plaisir d'échanger avec Thomas Verdusier afin de présenter son livre « Comment j'ai failli devenir espion » publié par les éditions Anne Carrière au mois de mai 2024. Bonjour Thomas Verdusier.
Bonjour.
Thomas Verdusier, vous êtes cadre dans un groupement associatif du secteur de l'économie sociale et solidaire. Vous habitez à Marseille depuis peu de temps. Comment j'ai failli devenir espion est votre premier livre. Qu'est-ce qui vous a envie d'écrire ce moment de votre vie?
Alors bonjour, merci de cette invitation. Alors j'ai eu envie de me lancer dans l'écriture de ce livre tout simplement parce que j'en ai ressenti d'abord le besoin. Je me suis mis à écrire très rapidement après que cette histoire donc, qui m'a suivi pendant près d'un an et ce recrutement auprès de la DGSE pour les services français s'est clôturé. Et là, j'ai eu comme un besoin de repasser le film et d'essayer aussi de déplier de façon un peu introspective et cathartique quelles avaient été les raisons pour lesquelles j'avais d'abord choisi d'embrasser ce recrutement et puis les questionnements qui avaient jailli au fur et à mesure des mois qui s'écoulaient. Donc ça a été pour moi un moyen aussi de poser ces choses-là et d'être plus en paix peut-être avec la décision qui avait été la mienne.
Vous écrivez « Mes pérégrinations faisaient de moi un profil caméléon ». Alors vous n'avez quand même pas été caméléon tout le temps parce que vous avez été président de toutes les structures de l'éducation où vous êtes passé. Vous avez été de mémoire capitaine de l'équipe de rugby de l'IAE. Vous avez été également capitaine de l'équipe. Non, vous avez été responsable de l'école d'étudiants de
Sciences Po, oui.
De Sciences Po, de CAGE aussi, de l'SCEM. Donc, vous n'êtes pas seulement caméléon, vous avez quand même un peu le sens du pouvoir.
Peut-être qu'il s'est tari avec les années qui ont passé un petit peu, mais oui, c'est vrai que j'ai toujours bien aimé m'engager dans ce que je faisais. Alors, ça a été pour des raisons X ou Y, le rugby parce que j'étais joueur depuis petit et que c'est ma passion, les engagements associatifs. Alors, en école de commerce, en effet, post-bac, parce que j'aimais bien faire la fête. Voilà, et alors à Sciences Po, oui, à Sciences Po, c'était presque une façon pour moi, je suis arrivé à Sciences Po un peu tardivement, c'était presque une façon pour moi d'exister dans cette institution voilà, que je découvrais, de laquelle je me sentais en décalage compte tenu du parcours différent que j'avais eu par rapport à des jeunes étudiants qui étaient arrivés à Sciences Po en post-bac. Donc oui, mais c'est vrai que j'ai toujours bien aimé travailler et m'engager dans des associations, aussi pour l'aspect collectif, porter des projets. Voilà, c'est aussi poser les pierres d'un apprentissage et en tant qu'étudiant pour mener à bien tout un tas de projets. Mais à la
Et
fois...
après, si... Oui, vous en prie.
Et à la fois, quand je dis caméléon, je dis en fait qu'en effet, il y a quelque chose d'important pour un candidat clandestin, c'est en effet de pouvoir avoir une forme de CV qui puisse permettre de ne pas éveiller de suspicion lorsque le futur candidat sera éventuellement amené à partir sur des théâtres d'opération à l'étranger, notamment, eh bien, il fallait que mon profil corresponde à cela. Donc, en effet, j'avais travaillé aux États-Unis, j'étais parti en Afrique en mission humanitaire, j'avais travaillé dans des institutions internationales, le Quai d'Orsay, la Croix-Rouge, ce qui permettait, en effet, de dire demain, ce n'est pas si déconnant, original, si je m'apprête à partir dans un endroit de la planète.
Et après Sciences Po, vous n'avez pas eu envie de faire l'ENA.
Alors là, non, je n'ai pas eu envie de faire l'ENA, premièrement parce que moi j'étais en affaires internationales à Sciences Po, donc les cours étaient quand même plutôt, n'étaient pas ceux d'une préparation en affaires publiques pure et dure, en droit, etc., enfin, toutes les matières de l'ENA, et par ailleurs aussi avec une forme de principe de réalité. Alors bon, peut-être qu'il n'appartient qu'à moi, mais je n'ai jamais été très académique, et donc je pense que l'ENA m'aurait demandé énormément de travail, et vraiment de me dédier à cela, pour pouvoir espérer obtenir ce concours qui est quand même, réputé, comme l'un des plus difficiles de la République.
Vous venez d'en parler un tout petit peu, mais comment et où le service des renseignements généraux recrute-t-il? Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'une structure comme Made in France, et qui est une structure qui représente les intérêts économiques à l'étranger, est aussi une organisation, je veux dire, para-service des renseignements généraux. En tous les cas, les personnes qui interviennent dans l'organisation de colloques ou dans l'organisation d'événements sont plutôt des gens qui sont susceptibles d'appartenir au renseignement.
Alors là, il y a une forme d'opacité qui, même moi, ayant été appelé à un moment donné, à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse. En fait, je sais, j'ai donc compris que Sciences Po en affaires internationales était un vivier pour la DGSE et les renseignements. Donc, en effet, parce qu'on a une formation qui est entre autres géopolitique, donc qui, voilà, avec une appétence pour les questions internationales, chose quand même essentielle pour les métiers du renseignement extérieur. Et puis après, moi, j'ai quelques hypothèses pourquoi on est venu vers moi plus que celui d'à côté, je dirais. C'est peut-être, alors, la première hypothèse, c'est que quelqu'un que j'aurais croisé dans mon milieu professionnel, dans mes débuts, m'ait coopté d'une certaine façon, donc ait soufflé mon nom au service ou au vu de compétences ou de qualités humaines qu'il aurait pu déceler chez moi et qui correspondraient à ce qu'on recherche chez un candidat. L'autre chose quand même que je dois dire, c'est que j'avais moi-même, en tant qu'étudiant à Sciences Po, passé le concours de la DGSE, donc qui est un concours de la haute fonction publique, mais bon, pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer pour l'ENA, j'étais tout aussi peu académique pour la DGSE, donc et peu préparé, donc c'est vrai que j'ai eu des résultats assez médiocres à ce concours, un concours qui ouvre la voie à des postes d'analystes qui n'ont rien à voir en réalité avec la vie que peut avoir un clandestin qui, lui, opère sous couverture et voilà, et de façon opérationnelle. Et donc ce n'est que plus tard que j'ai eu ce fil, voilà, du ministère des Armées, et c'est là où s'est enclenché le recrutement.
Oui, donc vous venez d'expliquer rapidement comment le service des renseignements généraux est arrivé jusqu'à vous. En fait,
Voilà,
une
voilà,
candidature
voilà.
qui s'est mal passée, et puis finalement, les RG viennent vous chercher.
Oui, voilà, malgré tout. Absolument.
Alors, qu'est-ce qui vous avait attiré, séduit, donné envie de devenir espion, enfin d'embrasser cette carrière du renseignement? C'était quoi, le goût du risque, le goût de l'aventure?
Oui, alors, ben moi, Alors, d'une part, voilà, je suis comme tout le monde, donc j'ai grandi avec ces figures un peu archétypales, dont l'une, évidemment, James Bond, et puis plus récemment, le Bureau des légendes, etc. Donc, ces figures-là peuvent faire fantasmer d'une certaine manière. Mais après tout, moi, je n'avais jamais vraiment pensé devenir espion en réalité. Et quand je passe ce concours, c'est plutôt par curiosité, parce qu'on me dit que c'est un concours qui ouvre la voie à de belles carrières. Et après tout, je fais ça sans trop penser aux conséquences que ça peut avoir. Et puis après, une fois que ça me tombe dessus un peu, si je peux dire, eh bien là, en effet, je m'interroge un peu plus sérieusement entre le fantasme qui pouvait être le mien à travers mes lectures. Le cinéma et l'image donc que je pouvais en avoir, puis la réalité qu'on tente de me décrire et que j'essaie de me faire de ce métier, où là, il est donc toujours question de la recherche d'une forme de risque, et donc qui dit risque dit une forme d'adrénaline, d'urgence, de gravité dans l'action professionnelle, ce qui peut donner quand même un sentiment d'appartenance, de dévouement et d'action dans sa vie. Donc ça, c'est en effet des choses que je recherchais, et en tout cas dans lesquelles je me disais que je serais éventuellement susceptible de m'épanouir, tout en ayant conscience que ça restait très loin de moi, parce que après tout, moi, c'est très facile que de se penser être un futur opérationnel alors qu'on n'y connaît rien et qu'on ne sait pas vraiment ce qui nous attend et les difficultés que l'on va rencontrer. Et après, il y a l'aspect quand même de se dire que mon travail aurait du sens et donc qui permettrait, là moi je suis quand même, j'ai été frappé, jeune Parisien, frappé par les attentats qui ont touché la capitale. On se dit que les renseignements là-dedans jouent un rôle, ce n'est pas que ça, mais entre autres, jouent un rôle de prévention des affres et des risques d'un monde dans lequel la politique étrangère et les relations internationales se durcissent.
C'est vraiment très très éloigné. Enfin, le métier d'espion est très très éloigné de ce que vous faites aujourd'hui dans l'économie sociale et solidaire.
Oui, absolument, absolument, c'est très éloigné. Alors, en effet, parfois, il peut m'arriver de me dire que ma vie pourrait être très différente lorsque je fais des choses qui peuvent m'embêter dans ce que je fais aujourd'hui. Et de l'autre côté, ce que je retrouve dans ce que je fais aujourd'hui, c'est la question du sens, en fait, c'est celle qui vraiment fait partie de ma réflexion. Moi, en tant que je viens de juste d'avoir 30 ans. Voilà, le travail, voilà, qu'est-ce que moi j'aime bien interroger le travail et interroger ce que l'on fait, ce que l'on produit et ce pourquoi on le fait. Et donc, si j'avais essayé de me trouver des raisons quand même à un moment donné en tant que futur clandestin, ici les raisons sont toutes trouvées aussi parce que dans le monde associatif et dans le groupe associatif dans lequel je travaille, à Marseille, on a des places d'hébergement pour des personnes dans des situations de grande précarité, des travailleuses du sexe, personnes en situation d'addiction, des femmes, des hommes, des jeunes en difficulté dans des centres éducatifs fermés. On essaie de penser la transition écologique avec un prisme social. Enfin voilà, donc c'est quand même autant de sujets militants et moi qui permettent de toujours conserver. C'est ce besoin de sentiment de s'engager au service de quelque chose.
Je dois prochainement réaliser une mission à propos d'un livre dont le titre est Le prix du travail bien fait. Je suis moi aussi très très intéressé par tout ce qui touche au travail. Pendant les 15 dernières années de ma vie professionnelle, j'étais expert judiciaire dans ce que l'on appelle les affaires sociales et qui concernent les relations salariés-employeurs. Donc je garde une appétence très, très, très approfondie à propos de tout ce qui touche le travail. C'est toujours une thématique qui me passionne parce que je découvre toujours plein, plein, plein de choses. L'idée qu'on se faisait de l'origine du mot travail, trapalum, en fait, il est démontré que ce n'est pas du tout ça. Que le mot travail revient davantage à relier à une poutre qui rassemble et non pas à l'esprit, à l'outil de torture. Et voilà.
Ah ben je l'apprends aussi, vous voyez. Tant mieux, parce que.
Ben, j'ai un peu, j'ai des cheveux blonds et je continue à apprendre tous les jours, ce qui me paraît être un des beaux sens de la vie.
Oui, bien sûr.
Alors revenons à votre livre et quelque part, vous indiquez, le renseignement est un instrument de puissance.
Oui, alors en
Parce qu'en
fait.
fait, tous les pays disposent plus ou moins d'un service de renseignement, plus ou moins développé, plus ou moins efficace. Mais bon, l'actualité récente nous a montré comment les puissances telles que les États-Unis ou la Russie pouvaient influer soit dans des élections, soit s'ingérer dans les conflits au Moyen-Orient ou avec l'Ukraine, mais pas que.
Oui, absolument, absolument. Mais c'est ce que je disais, hein, quand, en fait, c'est ce qu'on appelle la théorie réaliste des relations internationales. C'est forcé, celle que notamment porte beaucoup l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Araud. En fait, c'est voilà, les relations internationales sont telles qu'elles sont et que c'est de toute façon une confrontation perpétuelle de puissance. Et donc, à ce titre-là, lorsqu'on voit que le FSB en Russie est l'une des plus grosses administrations du pays. Aux États-Unis, la CIA de même. Les Chinois, on se dote aussi de services de renseignement, l'Israël, etc. À ce titre-là, une puissance comme la France occidentale se doit de se doter des moyens pour pouvoir renseigner. Et renseigner, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer d'avoir des capteurs un peu partout dans le monde pour pouvoir prévenir les crises, s'y préparer et les penser, voilà.
On entend souvent à la radio et à la télévision Alain Bauer qui tient la chaire de
Bien sûr.
sécurité au Conservatoire national des arts et métiers. Mais en ce moment, et en raison du match de foot qui doit se dérouler, je crois, demain entre la France et
Oui.
Israël à Paris, ben, j'imagine que les renseignements généraux sont vraiment sur le pied de guerre, si je peux me permettre cette expression. Parce que
Alors là,
c'est
c'est.
ça.
Oui, c'est possible, c'est tout à fait possible. Alors là, ça serait juste la seule différence, en ce qui concerne les affaires intérieures, ce serait la DGSI, donc qui est différente de la DGSE. Le premier étant la Direction générale de la sécurité intérieure, donc qui renseigne sur le territoire français, tandis que la DGSE, donc concerne le renseignement extérieur. Et donc les clandestins sont des personnes qui sont en effet envoyées dans d'autres pays pour pouvoir aller recueillir du renseignement ailleurs.
Alors, malgré votre jeune âge, vous avez eu plein d'expériences. Qu'est-ce qui s'est passé au Quai d'Orsay?
Ouais, alors le Quai d'Orsay, j'y ai commencé en ayant la chance d'y faire un stage pendant mes études, donc au Consulat général de France à New York. Donc là, j'ai pu voilà, mettre les premiers pas dans ce que peut être la diplomatie, l'influence française à New York en plus. Donc ça a été une expérience
Oui.
très très riche.
Déjà une première expérience des services extérieurs ou pas du tout?
Non, pas du tout, pas du tout.
Pas
Là, il
du tout.
s'agissait vraiment. J'étais un jeune étudiant qui découvrait. Là, c'était pendant les élections présidentielles françaises, celles qui ont fait élire l'actuel président Emmanuel Macron. Et en fait, on travaillait. C'est un poste consulaire très important. Il y a 80 000 ressortissants français. À New York. Donc, en fait, il s'agissait aussi d'organiser techniquement les élections et de participer au rayonnement culturel, économique français. Donc, là, c'était très intéressant. Alors, aussi, tout le monde découvrait ce qu'était la diplomatie avec ses épaisses moquettes et ses lustres et ses agapes et dîners fastueux. Voilà, sur la 5e avenue, c'était très intéressant. Et puis donc ma deuxième expérience, où là j'ai pu un peu plus voir l'étendue de ce que pouvait être cette administration. Je participais à l'organisation de la conférence des ambassadeurs et des ambassadrices, qui est le grand moment de la rentrée diplomatique française. Donc, chaque fin, à la fin de l'été, chaque année, on réunit les chefs de poste. Donc, je crois, on doit avoir une grosse centaine d'ambassadeurs et d'ambassadrices un peu disséminés partout dans le monde qui se réunissent. Et donc, là, la feuille de route de la politique étrangère leur est donnée par le président de la République, le premier ministre, puis le ministre des Affaires étrangères. Et on en profite aussi pour aborder tout un tas de sujets et passer une semaine autour d'ateliers à réfléchir, à penser le rôle et l'action de la France, et l'action extérieure de la France. Voilà. Ce qui était donc du coup très intéressant parce que, évidemment, d'un pays à un autre, les stratégies ou voilà, les choses les plus importantes diffèrent. On ne fait pas de la diplomatie de la même façon entre Alger, New York et Berlin ou Moscou.
Bon, après, vous partez au Kenya dans une ONG, donc ça n'a rien à voir.
Ça, oui, alors, oui, ça n'a pas rien à voir, mais ça n'a pas tout à voir. Mais oui, alors c'est très loin de ce qu'on peut vivre matériellement voilà, dans une ambassade, en effet. Et là, pour le coup, je suis parti parce que j'avais envie de sur le terrain, quoi. Et donc là, je suis parti un peu tout seul et j'ai rejoint une toute petite ONG locale et j'ai crapahuté dans le pays pendant 4 mois, je crois. 4 mois, oui, où je montais des projets de toutes sortes. Hein, donc ça pouvait être une maison pour des femmes isolées, vulnérables, un orphelinat ici, essayer d'œuvrer au service du développement de communautés. Et là, j'ai eu une expérience assez géniale, c'est que j'ai rencontré pendant mon voyage, enfin, j'avais lu un article qui consacrait à une femme qui s'appelait Nailente Nengueté, qui en fait était devenue ambassadrice des questions de female genital mutilation, donc d'excision. Elle venait des régions Maasai, où cette pratique est encore courante, et elle avait fugué après avoir vu sa sœur être excisée devant ses yeux, et puis elle en avait fait son combat. Donc moi, j'étais un peu sensibilisée à ces questions par ma sœur qui est journaliste et qui travaille sur des questions de sexualité, sur le féminisme. Et je l'avais rencontrée, le courant était bien passé, et donc je lui avais dit que j'aurais beaucoup aimé passer du temps avec elle et notamment voir d'où elle était partie. Et donc elle a accepté, on est allé passer une semaine dans les tribus Maasai d'où elle venait, donc au pied du Kilimandjaro, dans ces maisons en terre cuite, avec des Maasai qui sont donc des bergers nomades. Et alors là, ça a été un peu une immersion en terre inconnue pour reprendre l'émission en télé. Mais donc, ça a été voilà, une expérience très forte, le Kenya, et qui m'a donné envie à Sciences Po, en effet, de me diriger plutôt au profil, commencer à s'orienter vers un aspect international, quoi, voilà.
Et ensuite, vous retournez sous les ordres de la République au Sénat.
Et oui, alors là, c'est par une opportunité professionnelle qui s'offre à moi en sortant du Sénat et donc auprès d'un sénateur de gauche. Et donc, je me dis que ce sera de toute façon un apprentissage que d'aller au Palais du Luxembourg et de voir un peu comment la fabrique de la loi. Donc, j'ai aucun regret là-dessus parce qu'en effet, ça a été très intéressant d'observer voilà ce qu'on appelle la navette parlementaire, comment se construit une loi en amont, pendant, en aval du processus parlementaire, les décrets, etc. Les jeux de pouvoir inhérents aussi à une chambre parlementaire. Et à la fois aussi, j'ai pris de plein fouet vraiment ce qu'on peut appeler, là, ce que j'appelle la vanité pure et dure des élus de certains élus de la République. Et parfois, il faut le dire, à gauche comme à droite, hein, d'ailleurs, j'ai été confronté aussi à une forme de vide intellectuel. Moi, j'ai été frappé par l'absence parfois de vision. J'ai subi mon rôle de collaborateur parlementaire qui consistait en fait à produire beaucoup d'amendements, donc à proposer des modifications de la loi. Et moi, et donc en fait, on subit, nous, en tant que collaborateurs, ce qu'on appelle l'inflation normative, à savoir le fait de devoir réagir et écrire sur tout un tas de textes qui s'enchaînent et au plus grand désespoir du monde judiciaire et des juges, notamment, qui ne connaissent plus les codes tellement ils sont denses, et le code pénal a triplé de volume en 50 ans. Donc voilà, et en plus, par ailleurs, une forme de sentiment d'illégitimité à devoir travailler des sujets qui sont d'une grande complexité souvent, et passer d'un sujet à l'autre. Et donc j'ai pris aussi, voilà, je m'amusais à dire dans mon entourage que la fameuse maxime « Nul n'est censé ignorer la loi », eh bien ça, je peux vous garantir que c'est quelque chose qu'on ne peut pas. Donc que j'ai pu vérifier que tout le monde ignore la loi, absolument, y compris ceux qui la font. Donc à un moment donné, on voit bien qu'il y a un problème. Donc c'est pour ça que je ne suis pas resté très longtemps, et par ailleurs, étant auprès d'un sénateur de gauche, il faut dire aussi que rien de ce que je produisais n'était voté, puisque le Sénat actuel est de droite très conservatrice. Et donc, à un moment donné, voilà, je reviens au sens et à l'engagement. En s'engager, oui, mais pourquoi avoir une forme de prise sur la réalité, c'est un peu mieux. Or, là, la prise, je ne la voyais pas, moi.
Mais, toujours à propos du Sénat, vous parlez de machine à amender, de l'art du clientélisme, mais qui n'est pas, à mon avis, qui n'est pas spécifique au Sénat.
Non, oui, c'est pas spécifique au Sénat. Moi, j'ai travaillé, donc voilà, ayant en fait Sciences Po est une forme d'accélérateur de carrière politique. Moi, avant Sciences Po, j'étais ni plus bête ni plus intelligent qu'avant de le faire, mais j'ai en tout cas constaté que dès que j'en ai passé les portes, je me suis retrouvé les mois qui suivent auprès du conseiller spécial en stage de la maire de Paris, puis à l'inspection générale des finances. Enfin, d'un coup, quand même, les institutions et le monde du pouvoir s'ouvrent à nous. Et donc, moi, j'ai un petit peu côtoyé sans m'y être frotté pendant des années. Je peux dire que ce que j'y ai vu, moi, en tout cas, à mon humble niveau, a quand même des choses que je trouve un peu particulières, hein, et que, en effet, ce que vous dites, ça va bien au-delà du Sénat. Ce qu'on appelle le clientélisme est évidemment quelque chose qui est permanent. Et puis, il y a parfois, on a quand même le sentiment que ce qu'on appelle les élites, on échappe. Il y a quelque chose qui nous échappe, plus moi et qui m'a paru un peu trop loin de la réalité. Et donc, la suite de mon parcours m'a permis de me rapprocher de là où il se passe quand même plus de, où il se passe des choses, quoi. Et c'est-à-dire où Voilà, où il y a une forme, où il y a, où la, là, il y a une forme de vie, quoi, où je sais pas comment dire autrement, en tout cas, voilà, où la vie se fait, quoi.
Cesare Matina, qui est chercheur en sociologie à Aix-Marseille Université, a écrit un livre dont le titre est Le clientélisme.
Oui.
Et je vous le recommande parce que c'est un livre très instructif sur le clientélisme de manière générale et sur le clientélisme en particulier à Marseille. Et en fait, Cesare raconte comment. Il y a 50 ans, les élus pouvaient accorder un petit service. C'était un travail, c'était un logement, c'était une place à la crèche ou à l'école, ce qui aujourd'hui est absolument plus possible ou quasiment plus. Et il explique également comment les personnes qui ont profité de ces petits avantages ont changé de classe sociale et ont changé aussi leur vote. Dans les quartiers, enfin les quartiers de 13, 14, 15, 16, toute la périphérie nord de Marseille était très, très communiste et a basculé à droite, voire à l'extrême droite. Et vraisemblablement, en raison de cette impossibilité politique, du politique et des politiques, de satisfaire des besoins immédiats, mais des petits besoins. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'une place d'une place à la crèche, j'ai besoin d'un logement. Voilà, mais bon, on va pas refaire la politique maintenant.
C'est sûr.
Bon, vous disiez au tout début que vous restez passionné de rugby. Qu'est-ce que ce sport va vous a apporté?
Ah oui, alors,
Et comme ça vous laisse le temps de préparer votre réponse. Moi, je suis passionné de rugby féminin. Je trouve que ces jeunes femmes ont un jeu très intelligent, très dynamique, extrêmement courtois et peu violent, même s'il y a des affrontements physiques. Mais par rapport au rugby masculin, vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à regarder les matchs de rugby féminin plutôt que de voir jouer des hommes, même si France Japon, c'était avant-hier, je crois, a été un très beau spectacle.
Mais ça me fait plaisir de vous l'entendre dire, vous, ça fait du bien de. On s'inscrit donc tous les deux en faux par rapport à Alain Finkielkraut, qui, je crois, avait fait une sortie il y a 1 ou 2 ans de ça, en disant que le rugby féminin était une abomination de notre siècle, que les femmes n'avaient rien à faire là, que dans cet endroit viril, masculin, et que voilà, donc comme quoi quand même. Je crois que sa pensée reste somme toute minoritaire. Et donc moi, le rugby, donc je l'ai commencé très jeune. Et en fait, alors d'abord, moi j'ai un gabarit qui faisait aussi, donc qui n'est pas, je suis pas le plus épais de l'équipe. Et
Vous deviez être demi de mêlée.
voilà, demi, exactement. J'étais demi de mêlée et plus tard j'ai joué un peu demi d'ouverture. Mais c'est un sport, voilà, donc déjà qui m'a permis que j'aime cette idée selon laquelle pour être une équipe performante, il faut avoir une forme de mélange et de mixité de joueurs, d'anatomie. Et donc ça, je trouve que c'est un message assez fort. J'aime la fraternité qui émane de ce sport entre joueurs et puis avec les adversaires. Le respect de l'arbitre également, je trouve que c'est quand même des choses qui sont vraiment fortes et propres à ce sport. Et puis après, évidemment, je parlais d'adrénaline aussi, de risque au début, c'est-à-dire que moi, j'ai en souvenir les moments d'avant-match où là, même en tant que moi plus tard capitaine de l'équipe, les harangues faites à des joueurs avec qui quand même on s'apprête à vivre une forme de guerre, et j'ouvre évidemment les guillemets, mais quand même. L'adversaire nous veut du mal, et alors l'idée c'est de lui faire mal, et les mots employés dans un vestiaire de rugby sont de nature martiale, et donc et ça c'est des moments qui soudent les hommes, et donc moi j'ai adoré ces moments-là, et le fait d'être, voilà, c'est d'être dans un sport de combat collectif, quoi. Ça c'est quelque chose qui m'a que je que j'ai que voilà et, qui La loyauté à l'équipe, la fraternité et le dévouement à l'équipe et la condition de la victoire. Car si je loupe un plaquage, il y a un essai. Et si voilà, donc ça, je trouve quand même que le rugby est un sport pour ça, c'est fascinant.
Je suis toujours surpris lorsque des journalistes sportifs parlent de munitions à propos d'un joueur qui vient de manquer une passe ou qui vient de manquer un coup de pied. Et je trouve que ce vocabulaire guerrier, dans le commentaire d'une compétition sportive, n'a pas sa place. Mais parce que je suis très attentif aux mots et enfin, les mots mal adaptés ou en tous les cas adaptés. Enfin, emprunter à d'autres disciplines ne me semble pas convenir, en tous les cas dans cet espace. Mais moi aussi, je suis vraiment très, très admiratif de tous ces joueurs qui, à la fin du match, se saluent, se tapent dans les mains, voire se donnent une accolade, ce qui n'est pas le cas dans tous les sports, malheureusement. Et pour revenir au sport féminin, je trouve que les femmes excellent dans de plus en plus de sports. J'ai eu l'occasion de rencontrer des boxeuses, mais qui sont de la même manière extrêmement courageuses, extrêmement volontaires, extrêmement techniques. Ce sont pas des amatrices, quoi. Elles n'y vont pas la fleur au fusil. Mais dans des sports extrêmement violents comme le MMA. Il y a des femmes qui excellent également. Et dans le foot aussi, les joueuses de foot françaises, de mon point de vue, jouent bien. Et ce n'est pas le même, enfin, de mon point de vue, ce n'est pas le même sport que le foot féminin ou le rugby féminin. Ce sont deux sports différents, même si les règles sont les mêmes.
Oui. Non, mais c'est certain qu'on doit jouer, on joue un sport avec les qualités intrinsèques de ses joueurs. Et donc, effectivement, le rugby étant un sport d'évitement au départ, peut-être que. Alors moi, je ne le regarde pas assez, alors, mais, enfin, le rugby féminin, je dois le dire, mais je pense qu'en effet, on y retrouve plus ce rugby d'évitement que le rugby frontal ultra physique qui est devenu le haut niveau professionnel.
Revenons à votre livre et au deuxième chapitre. Et vous parlez d'une rencontre. Et puis vous parlez un tout petit peu de votre sort, de votre sœur Pauline Verdusier.
Oui, alors en fait, le livre est construit de telle sorte que la première partie s'attache à expliquer pourquoi, à un moment donné, voilà, je fais le grand saut et je décide de me lancer dans le recrutement qu'on me propose après maintes questionnements et tergiversations. Et la partie 2 consiste à, d'un coup, me décentrer de cette réalité qui est celle de mon recrutement, pour y faire intervenir des externalités qui pourraient avoir une influence sur mon choix final. Et la première d'entre elles, c'est donc ce chapitre qui s'appelle La rencontre. Il s'avère que pendant que je me fais recruter, alors que moi donc j'approche les 27 ans à ce moment-là, je suis un éternel célibataire. Voilà, j'ai des aventures comme tout jeune homme, mais je n'arrive pas à tomber amoureux. Et j'ai à mon grand désespoir, et c'est quelque chose qui une forme de souffrance chez moi. Mes amis sont amoureux, mes frères et sœurs. Et là, paf, ça m'arrive à ce moment-là. Je trouve quand même qu'il y a une forme de coïncidence et presque de farce du destin là-dedans, parce que quelque chose à laquelle je m'y attendais pas, et d'une certaine manière, on aurait pu bien m'épargner ça au moment du recrutement si j'avais voulu aller jusqu'au bout. Et là, d'un coup, voilà, je me dis, oh, je rencontre cette fille qui est donc aujourd'hui toujours ma compagne avec qui je vis à Marseille, qui s'appelle Marie, qui elle est avocate, et donc je la rencontre par un groupe d'amis. On a des voilà, interposés. On s'était en fait déjà croisés. Et là, bon, voilà, je raconte un peu l'histoire. C'est presque comme un coup de foudre. Très rapidement, on tombe amoureux l'un de l'autre. Et moi, puisque vous parlez de ma sœur aussi, il s'avère qu'en fait, on est en vacances ensemble et que ma sœur a écrit un livre qui a trait sur, qui s'appelle Vilaine fille. Les travailleuses du sexe, les clientes et la journaliste, qui est une forme d'enquête sur les réalités du travail du sexe de leurs clients et dans lequel elle s'inclut en tant que femme pour essayer de comprendre aussi qu'est-ce qu'on met derrière le mot pute depuis toujours, derrière le mot prostituée, pourquoi voilà. Et je prête ce livre à Marie, donc, qui est cette fille que je rencontre, qui est elle aussi très féministe, naturellement. Et donc on échange. Et donc c'est sur la base de ce livre-là que se font notre première longue discussion. Moi, je crois que j'aime beaucoup chez elle la lecture qu'elle a et son indignation que j'aime, parce que pour moi, être une femme indignée dans une société patriarcale, c'est la norme, c'est la normalité. Je la trouve vraie, je la trouve voilà. Et elle, de son côté, peut-être qu'elle aime que le fait que je sois un peu sensibilisée à ces questions-là et que du coup je sois moi aussi, je m'inscrive dans une forme de féminisme. Et donc voilà, notre amour naît un peu de là, et puis il se confirmera dans les semaines qui suivent cette rencontre.
C'est une belle chose, semble-t-il.
Ah bah oui, ah bah en tout cas, voilà, l'avenir m'a donné raison jusqu'alors.
Pour poursuivre dans votre livre, vous écrivez: la seule campagne électorale à laquelle j'ai activement participé a agi comme un vaccin. En fait, c'est la même chose que votre passage au Sénat.
C'est ça. C'est ça. Et à la fois, ouais, voilà, ça fait. J'écris tout ça et dernièrement, moi, je suis dans mes réflexions actuelles, hein, à la lumière de ce qui nous est donné à voir, hein, politiquement, et qui est quand même assez extraordinairement problématique. Je ne sais pas comment le dire avec un euphémisme un peu les choses. Mais en tout cas, voilà, que la politique à la fois fait partie de moi. Moi, je suis aussi quelqu'un de qui qui indigné permanent, qui n'a que voilà, moi je, dans mon travail actuel, je suis quand même proche des personnes les plus en souffrance de nos sociétés et si vous voulez, moi j'ai les inégalités sociales sont quelque chose qui me sont absolument étrangères. Je n'arrive voilà. Pour moi, il n'y a pas de, on ne hiérarchise pas des êtres humains et le différentiel d'existence qui existe, et même comme dans une, dans les grandes métropoles comme à Marseille, où on peut passer d'une rue à l'autre entre la plus grande pauvreté et à la plus grande richesse, c'est quelque chose qui m'est insupportable. Donc à la fois, la politique, c'est quelque chose qui est nécessaire et à laquelle je pense à un moment donné, je vais avoir besoin de revenir. Parce qu'on doit faire mieux et parce que ce qui nous est donné à voir est détestable et que je pense qu'il y a d'autres voies possibles. Et donc, cette campagne à laquelle j'avais participé était la première campagne de place publique, donc menée avec la tête de liste de Raphaël Glucksmann aux européennes. Et donc, à ce moment-là, place publique est naissant et j'y trouve rapidement quelque chose qui, je pense, devrait faire le sel de, être le sel de la politique, à savoir des personnes. Qui ne sont pas moi. Moi, je suis stagiaire à ce moment-là et je regarde tout ça avec une grande curiosité en essayant d'accompagner le mouvement avec ce que je peux faire. Mais j'y rencontre des gens plus âgés qui n'ont jamais fait de politique au sens partisan, mais qui ont toute leur vie œuvré au service d'une cause. Et ces causes-là, on ne peut pas leur enlever. Et donc, il y a une forme, si vous voulez, d'honnêteté, de combat qui a été leur. Et donc ça permet de se dire que quand même, voilà, quelque chose, cette personne va pouvoir mener ce combat. Et donc là, j'ai rencontré des gens extraordinaires de qui je suis toujours ami. En revanche, pour des questions évidemment électorales, et pour gagner, à un moment donné, place publique rejoint après maintes débats, soirées. La route du Parti socialiste pour les européennes. Et alors là, c'est à partir de ce moment-là où tout part à volo. Il n'en reste pas moins qu'on est tous plutôt très fiers d'avoir emmené Raphaël Glucksmann, Aurore Laluc et les quelques-uns qui ont été élus au Parlement et qui ont fait vraiment un travail, cas moi que j'ai trouvé jusqu'à aujourd'hui, un travail hyper important au Parlement, notamment sur la question des Ouïghours pour Raphaël Glucksmann, enfin, bref. Mais ça a été au prix de la découverte de ce qu'était intrinsèquement le Parti socialiste. Et moi, j'ai eu des réunions, j'ai rencontré les fameux MJS, Mouvement Jeunes Socialistes. J'avais des jeunes en face de moi. Moi, j'étais jeune aussi, mais j'avais peut-être quand même. Je me souviens de quelqu'un qui n'avait pas encore passé son bac. Donc moi, j'avais quand même sorti d'études, quoi, quasiment. Et qui me parlait comme dans House of Cards, qui me parlait comme si on était dans un film, à imaginer le coup d'après, à être dans une forme de posture, à répéter des éléments de langage entendus, vomis, enfin, franchement. Et je me suis dit, mais c'est peut-être pas ta place, quoi. Enfin, à un moment donné, moi, à 16 ans, j'avais envie de sortir avec les filles, à jouer au rugby, à boire des bières, à allumer ma première cigarette. Enfin voilà, on a le droit d'être un peu doucement politisé, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu prématuré parfois, autant à 16 ans, quand on évite que soit on répète ce que nous ont rabâché nos parents toute notre enfance, soit en l'occurrence ce que le Parti socialiste veut bien nous communiquer comme élément. Et donc j'ai été, voilà, et donc à ce titre-là, et donc tous les amis dont j'ai parlé ont fini en burn-out, aucun n'a fini la campagne quand même, ça montre, alors que c'était des gens qui en ont eu des combats hein, sur les migrants. Dans des professeurs dans des zones REP+, enfin, c'est des gens quand même avec un bagage, ils ont tous, ils et elles, explosé en plein vol. Et donc, ça dit quelque chose, ça dit quelque chose. Et la politique ne devrait pas être ça.
Vous écrivez plus loin, quel libre arbitre pour un agent public dont l'obligation d'obéissance hiérarchique est inhérente à la fonction? Est-ce que devenir espion, c'est comme devenir CRS? Obéir, exécuter les ordres reçus?
Ouais, c'est ça. C'est ça. L'espion, il doit, comme le CRS, à un moment donné, il applique des ordres et qu'il y a un aspect militaire. Le commandement militaire est quand même un savoir à part entière, mais qui s'explique, lui, par la nécessité de protection des militaires, par la nécessité de l'action. Voilà, on parle d'action de tuer là. Donc là, il y a quand même quelque chose de très direct. Moi, ces questions, elles se sont posées à moi parce que donc là, je me suis fait recruter moi pendant toute la campagne. La campagne était en parallèle de mon recrutement, mon recrutement était plutôt en parallèle de la campagne de présidentielle, donc la dernière, 2022. Et donc là, il y a Éric Zemmour qui naît, qui jaillit, par exemple. Et là, moi, je me dis, bon, vous avez compris que j'étais quand même de gauche. Je me dis, je ne vais pas aller me faire envoyer sur commande dans les endroits les plus reculés de la Terre avec un donneur d'ordre dont je ne partage en rien la vision du monde dans lequel nos visions sont antagoniques. Et je parle de Zemmour, mais ça va en fait d'une certaine manière. J'interroge même quelle l'action de la France en fait en tant que pays et que l'action étrangère de la France sans qu'il y ait besoin d'avoir un Éric Zemmour au pouvoir a été ces 10, 20, 30, 50 dernières années pas toujours louable et y compris sous la gauche et François Mitterrand comme on le sait aujourd'hui. Et donc voilà, à la fois je dis que donc il y a une forme, parfois une forme de nihilisme presque que je peux laisser transparaître, à savoir une forme de conscience du monde, de l'absurdité du monde dans lequel on vit, et que chaque action, quelle qu'elle soit, chaque travail, n'est pas pure. Voilà. Et donc moi, à un moment donné, effectivement, il faut accepter de se compromettre, et c'est la même chose en politique. Et la question, c'est jusqu'où on est capable de se compromettre et au service de quoi? Et a-t-on une ligne directrice? En quoi je crois? Voilà des questions qui se sont imposées à moi pendant toute cette période.
Est-ce que je peux dire que l'éthique est une réflexion sur les valeurs qui oriente et motive vos actions?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Totalement, totalement.
Et donc, dans les quatre principes de l'éthique, qui sont l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice, laquelle vous semble la plus importante?
La justice. La justice, voilà, je suis le compagnon d'une femme avocate. Je suis le frère d'un élève magistrat. Le meilleur ami d'un ami avocat. Donc voilà, je baigne dans le monde judiciaire. Et il me fascine, il me passionne. Voilà, c'est quelque chose. Et je pense qu'un monde juste est tout ce qu'on peut souhaiter. Et il ne l'est pas. Et il ne l'est pas du tout. Donc, moi, peut-être que sur un plan politique, un jour, je voudrais œuvrer à plus de justice, car c'est ce qui m'indigne le plus, l'injustice.
Nous arrivons à votre épilogue.
Oui.
Faut-il du courage pour décider?
Eh bien, oui. Voilà.
Je
L'épilogue et le dénouement, et donc l'épilogue est la partie que je préfère de mon livre. Enfin, en tout cas, voilà, on est toujours très critique avec ce qu'on peut dire et écrire, hein, mais l'épilogue, j'ai l'impression qu'il me met en paix avec moi-même d'une certaine façon, parce que c'est en effet là où j'ai réussi à poser des choses en me disant, parce que c'est ce qui était le plus dur, évidemment, à la fin, hein, ça a été de dire non. Ça faisait un an que je me faisais recruter. On venait de m'annoncer que j'allais rentrer dans cette famille des clandestins.
C'est
Et
étonnant,
donc,
vous parlez de famille.
c'est le mot qui a été employé. C'est le mot
Et
qui a été employé.
vous ne parliez pas de famille à propos du rugby.
Eh bien,
Vous parliez d'équipe.
ah ouais, voilà, oui, vous voyez. Ouais, mais donc, je pense que oui, alors. Le prétexte à faire la guerre au rugby, c'est le sport. Et là, on est dans la guerre, la vraie. Et je crois que j'ose, enfin, en tout cas, de ce que j'ai entreaperçu, on peut parler de famille des clandestins, parce qu'en fait, là, la défection est impossible. Parce que là, on ne parle pas d'une blessure au genou, d'une arcade pétée. On parle de la vie d'être humain et de gens avec qui on est. Voilà, on ne fait plus qu'un quasiment, et donc évidemment, on a envie je pense, de se protéger, et notamment de se surpasser les uns pour les autres.
Nous arrivons au terme de notre entretien. Merci d'avoir participé et d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle le titre de votre livre, Comment j'ai failli devenir espion, publié par les éditions Anne Carrière au mois de mai 2024. Encore merci, Thomas.
Merci à vous.